Chapitre 46. Patriote.
Lorsque l'on informa Simol de l'arrivée des danse-cordes, un mélange secret de terreur et de consternation, fréquent dans des cas similaires, l'envahit. Bien que ce ne fût pas le plus exigeant des ordres, leurs mouvements souples et gracieux masquaient un caractère implacable qui était déjà, en ces jours-là, largement renommé. Par ailleurs, c'étaient les plus éloquents et les plus raffinés parmi les radieux. Extrait du livre des radieux, chapitre 20, page 12.
Kaladin atteignit le bout de la rangée des hommes de pont. Il se tenait au garde-à-vous, lance sur l'épaule, regard braqué droit devant eux. La transformation était stupéfiante. Il hocha la tête sous le ciel en train de s'assombrir. « Impressionnant, » dit-il à Pete, le sergent du pont 17. « J'ai rarement vu un peloton d'hommes de pont aussi ordonné. » C'était le genre de mensonge que les commandants apprenaient à réciter. Kaladin ne fit aucune mention du fait que certains des hommes de pont se balançaient d'un pied sur l'autre, ni de la négligence de leurs manœuvres en formation. Ils essayaient. Il le percevait à leurs expressions concentrées, ainsi qu'à la façon dont ils avaient commencé à s'enorgueillir de leur uniforme, de leur identité. Ils étaient prêts à patrouiller, du moins près des camps de guerre. Il nota mentalement de demander à Teft de les emmener en alternance avec les deux autres équipes qui étaient prêtes. Kaladin était fier d'eux, et le leur dit tandis que l'heure s'étirait et que la nuit approchait. Il les congédia ensuite pour qu'ils aillent prendre leur repas du soir, qui dégageait une odeur tout à fait différente du ragoût manche-corne de Rock. Le pont 17 considérait son curry de haricots du soir comme une partie de son identité. Dire son individualité à travers la nourriture, cette idée amusa Kaladin tandis qu'il s'enfonçait dans la nuit, sa lance sur l'épaule. Il avait encore trois équipes à aller inspecter. La suivante, le pont 18, était l'une de celles qui posaient problème. Leur sergent, malgré toute sa bonne volonté, n'avait pas la présence nécessaire pour faire un bon officier. Cela étant, aucun des hommes de pont ne la possédait. Simplement, lui était particulièrement faible. Il avait tendance à supplier au lieu d'ordonner, ce qui était gênant dans les interactions sociales. Cependant, on ne pouvait rejeter la faute entière sur Vett. On lui avait également affecté un groupe d'hommes particulièrement mal assortis. Kaladin trouva les soldats du 18 assis, par groupes isolés, en train de manger leur repas du soir. Pas de rire, ni de camaraderie. Il n'était pas aussi solitaire qu'il ne l'avait été en tant qu'homme de pont. À la place, il s'était scindé en petites cliques qui ne se mêlaient jamais. Le sergent Vett les rappela à l'ordre et ils se levèrent paresseusement, sans prendre la peine de se tenir en ligne droite ou de saluer. Kaladin lut la vérité dans leurs yeux. Que pouvait-il leur faire? Certainement rien d'aussi terrible que ce qu'avait été leur vie d'homme de pont. Dans ce cas, à quoi servaient les efforts? Kaladin leur parla un moment de motivation et d'unité. « Il va me falloir une autre séance d'entraînement dans les gouffres avec cette bande-là, » se dit-il. « Et si ça ne fonctionnait pas non plus, eh bien, il faudrait sans doute les séparer, les caser dans d'autres pelotons plus fonctionnels. » Il finit par quitter le 18 en secouant la tête. Il ne paraissait pas vouloir être soldat. Dans ce cas, pourquoi avait-il accepté l'offre de Dalinar au lieu de s'en aller? « Parce qu'ils ne veulent plus faire de choix, » songea-t-il. Les choix peuvent être difficiles. Ils savaient ce qu'ils ressentaient. Ils ignoraient à quel point. Ils se revoyaient, assis, à regarder fixement un mur vide, trop morose même pour se lever et aller se suicider. Il frissonna. Il n'avait pas envie de se rappeler cette époque. Tandis qu'il progressait vers le pont 19, s'il le dépassa, sous forme d'un petit nuage de brume flottant sur un souffle de vent. Elle se transforma en ruban lumineux et volta autour de lui en formant des cercles avant de venir se poser sur son épaule. « Tous les autres sont en train de dîner, » déclara-t-elle. « Parfait, » approuva Kaladin. « Ce n'était pas une information, Kaladin. C'était un point de discorde. »« De discorde ?» Il s'arrêta dans le noir près du baraquement du pont 19, dont les membres mangeaient en groupe autour de leur feu.
« Tu travailles ?» lui dit-il. « Encore ?»
Il faut que je prépare ces hommes. » Il tourna la tête pour la regarder. « Tu sais que quelque chose approche. Ces comptes à rebours sur les murs. Tu as vu d'autres spécimens de ces sprènes rouges ?»«
Oui, »
admit-elle.
« Enfin, je crois. Du coin de l'œil, en train de me surveiller. Pas très souvent, mais ils sont là. »
« Quelque chose approche, » fit remarquer Kaladine. « Ce compte à rebours semble désigner la saison des pleurs. Quoi qu'il puisse se produire à ce moment-là, j'aurai préparé les hommes de pont à l'affronter. »«
Eh bien, tu n'en feras rien si tu tombes d'épuisement d'abord. »
Syl hésita.
« Les gens peuvent vraiment faire ça, dit. J'ai entendu Teft dire qu'il avait l'impression que ça allait lui arriver. »
« Teft aime exagérer, » commenta Kaladine. « C'est à ça qu'on reconnaît un bon sergent. »
Syl fronça les sourcils. « Et ce que tu viens de dire, c'était une blague ?»«
Oui. »
« Ah !»
Elle le regarda droit dans les yeux.
« Repose-toi quand même, Kaladine, s'il te plaît. »
Il se tourna vers le baraquement du pont 4. Bien qu'il se trouve quelques rangées plus loin, il lui semblait entendre le rire de Rock résonner dans la nuit. Enfin, il soupira et s'avoua son épuisement. Il pourrait inspecter les deux derniers pelotons le lendemain. Lance en main, il se retourna et fit le trajet en sens inverse. L'arrivée de l'obscurité indiquait qu'il s'écoulerait environ 2 heures avant que les hommes ne commencent à rentrer pour la nuit. En atteignant le baraquement, Kaladine sentit l'odeur familière du ragoût de Rock, mais c'était Ober, assis sur une haute souche que les hommes avaient façonnée pour lui, avec une couverture sur ses jambes grises et inutiles, qui assurait le service. Rock se tenait tout près, bras croisés, l'air fier. Renarin était présent, qui prenait et nettoyait les assiettes de ceux qui avaient terminé. Il le faisait chaque fois, agenouillé en silence près de la cuvette, dans son uniforme d'homme de pont. Ce garçon était plein de bonne volonté. Il ne témoignait pas du tempérament gâté de son frère. Bien qu'il ait insisté pour se joindre à eux, il s'asseyait souvent à l'écart des hommes de pont le soir, près de l'arrière du groupe. Quel curieux jeune homme. Kaladine passa devant Ober et lui saisit l'épaule. Il hocha la tête, regarda Ober droit dans les yeux et leva le poing. Le combat continue. Kaladine se servit du ragoût, puis s'immobilisa net. Assis non loin de là sur un rondin se trouvaient non pas un, mais 3 Zerdasiens costauds aux bras épais. Tous portaient l'uniforme du pont 4, et Kaladine ne reconnut que Pugno parmi eux. Kaladine trouva Lopen non loin de là, en train de regarder fixement sa main, qu'il tenait curieusement devant lui en serrant le poing. Kaladine avait cessé depuis longtemps de chercher à le comprendre. « 3 ?» demanda Kaladine.
« Des cousins !» répliqua Lopen en levant la tête.
« Vous en avez beaucoup trop !» répondit Kaladine.
« Pas possible ! Rod, Ouyo, dites bonjour !»«
Pont 4 !» déclarèrent les 2 hommes en levant leur bol.
Kaladine secoua la tête, accepta son propre ragoût, puis s'éloigna du chaudron pour pénétrer dans la zone plus sombre, près du baraquement. Il jeta un coup d'œil dans la réserve, et y découvrit Shen en train d'entasser des sacs de graines de talieu à la lumière d'une seule brisure de diamant. « Shen ?» demanda Kaladine. Le parche continua à entasser les sacs.
« Garde à vous !» aboya Kaladine.
Shen se figea net, puis se leva pour saluer, le dos bien droit.
« Repos, soldat !»
dit doucement Kaladine en s'approchant de lui. « J'ai parlé à Dalinar Colline tout à l'heure et je lui ai demandé si je pouvais vous armer. Il m'a demandé si je vous faisais confiance. Je lui ai dit la vérité. » Kaladine tendit sa lance au parche. « Je lui ai dit que oui. » Les yeux noirs de Shen regardèrent tour à tour la lance et Kaladine, hésitant.
« Le pont 4 n'a pas d'esclaves, » déclara Kaladine. « Je suis désolé d'avoir eu peur un peu plus tôt. » Il insista pour que Shen prenne la lame. Et ce dernier s'exécuta enfin. Leiten et Natam s'entraînent le matin avec quelques hommes. Ils sont disposés à vous aider à apprendre, afin que vous n'ayez pas besoin de vous entraîner avec les jeunes pousses. Shen tenait la lance avec une forme de révérence. Kaladine se détourna pour quitter la réserve.
« Mon capitaine, » lui dit Shen.
Kaladine marqua un temps d'arrêt. Vous êtes, ajouta Chen avec sa diction lente, un homme bon.
Toute ma vie, on m'a jugé pour la couleur de mes yeux, Chen. Pas question que je vous fasse subir la même chose à cause de votre peau.
Mon capitaine, je... Quelque chose semblait troubler le parche.
Kaladin ! Fit la voix de Moash depuis l'extérieur.
Vous vouliez dire quelque chose ? Demanda Kaladin à Chen.
Plus tard, répondit le parche. Plus tard.
Kaladin hocha la tête, puis sortit voir quelle était la source de ce boucan. Il trouva Moash en train de le chercher près du chaudron.
Kaladin ! Dit Moash en l'apercevant. Venez ! Nous sortons et vous nous accompagnez. Même Rock vient ce soir.
Ah, ragout dans de bonnes mains, répondit Rock. Je vais aller faire cette chose. Sera agréable de s'éloigner de la puanteur des petits hommes de pont.
Hé ! S'exclama Drey.
Ah, et puanteur des grands hommes de pont aussi.
Venez, dit Moash en faisant signe à Kaladin. Vous avez promis.
Il n'avait rien fait de tel. Il voulait simplement s'installer près du feu, manger son ragoût et regarder les sprennes de flammes. Mais tout le monde l'observait, même ceux qui n'accompagnaient pas Moash ce soir.
« Je... » répondit Kaladin.
« D'accord, allons-y. » Ils l'applaudirent et l'acclamèrent. Foudre d'idiots. Ils acclamaient leur commandant parce qu'ils le voyaient sortir pour aller boire.
Kaladin engouffra quelques bouchées de ragoût, puis tendit le reste à Hobber. Ensuite, à contre-cœur, il s'en alla rejoindre Moash, tout comme Lopen, Pete et Sigzil.
« Tu sais, » grommela Kaladin tout bas à l'intention de Syl, « si ça avait été une de mes anciennes équipes de lanciers, j'aurais supposé qu'il voulait me faire sortir du camp pour pouvoir trafiquer quelque chose de pas net en mon absence.
« Je doute que ce soit le cas, » répondit Syl.
« Non, » dit Kaladin. Ces hommes veulent simplement me voir comme humain.
Il fallait effectivement qu'il y aille, pour cette raison. Il se sentait déjà trop à l'écart des hommes. Il ne voulait pas qu'ils pensent à lui comme ils pensaient aux Palsiris.
« Ah !» s'exclama Rock, qui pressa le pas pour les rejoindre. « Ces hommes, ils affirment qu'ils peuvent boire plus que Manchecorne. Ces bastards, l'air leur ramollit la cervelle. C'est pas possible !»
« Un concours de boissons ?» demanda Kaladin, gémissant intérieurement. « Dans quoi s'embarquait-il »«
Aucun de nous n'est de service avant la fin de matinée, » annonça Sigzil, haussant les épaules.
Teft surveillait les collines pendant la nuit, en compagnie de l'équipe de Leiten.
« Ce soir !» déclara Lopen, levant un doigt en l'air. « La victoire est à moi ! On dit qu'il ne faut jamais parier contre le manchot herdasien lors d'un concours de boissons !»«
Ah bon ?»
s'étonna Moash.
On dira, poursuivit Lopen, qu'il ne faut jamais parier contre le manchot herdasien lors d'un concours de boissons.
Lopen, répondit Moash, sceptique, tu pèses à peu près le poids d'un hashdog mort de faim.
Ils bifurquèrent pour emprunter un chemin qui menait au marché. Le camp de guerre se composait de blocs de baraquements qui formaient un large cercle autour des bâtiments des Palsiris, près du centre. Sur le chemin du marché, qui se trouvait dans le cercle extérieur de la population du camp, au-delà de la zone réservée aux soldats, ils passèrent devant un grand nombre d'autres baraquements occupés par des soldats ordinaires, s'affairant à des tâches que Kaladin avait rarement vues dans l'armée de Sadeas. Ils affûtaient des lances ou huilaient des plastrons avant l'heure du dîner. Les hommes de Kaladin n'étaient cependant pas les seuls à sortir pour la nuit. D'autres groupes de soldats avaient déjà mangé, et se dirigeait vers le marché d'un pas nonchalant en riant. Il se remettait lentement du massacre qui avait laissé l'armée de Dalinar mutilée. Le marché flamboyait de vie, avec les torches et les lanternes à huile brûlant dans la plupart des bâtiments. Kaladin n'en était pas surpris. Une armée ordinaire devait être accompagnée d'une abondante population civile, et on parlait là d'une armée en mouvement. Ici, des commerçants étalaient leurs marchandises. Des crieurs vendaient des nouvelles qu'ils disaient arrivées par Echo-Calam, rapportant des événements survenus dans le monde entier. Qu'est-ce que c'était que cette histoire de guerre à Jacques et Vède ? Et de nouvel empereur en Azir. Kaladin n'avait qu'une vague idée de leur localisation. Sigzil s'approcha en courant pour écouter les nouvelles, et paya une sphère au crieur tandis que Rock et Lopen se disputaient pour décider quelle taverne était la meilleure à fréquenter pour la soirée. Kaladin observa ce flux de vie. Des soldats en train d'effectuer leur ronde de nuit. Un groupe de femmes sombres iris en train de bavarder, passant de marchand d'épices en marchand d'épices. Une messagère pâle iris affichant sur un panneau des estimations des dates et heures de tempête majeure. Tandis que son mari bâillait non loin de là avec l'air de s'ennuyer, comme s'il avait été forcé de l'accompagner pour lui tenir compagnie. La saison des pleurs approchait. Période de pluie constante sans tempête majeure. La seule accalmie était le jour des Lumières, en plein milieu. C'était une année de répit dans le cycle biennal de 1000 jours, ce qui signifiait que la saison des pleurs serait calme cette année.
« Assez débattu !» lança Moash à Rock, Lopen et Pete. « Nous allons au Chulrétif !»«
Ah !» s'exclama Rock.
« Mais ils n'ont pas de bière manche-corne !»«
Parce que les bières manche-corne, ça fait fondre les dents !» répondit Moash. « Et de toute façon, c'est mon tour de choisir ce soir !»
Pete hocha vigoureusement la tête. Lui aussi avait opté pour cette taverne. Sigzil revint d'avoir été écouter les nouvelles, et il s'était apparemment arrêté quelque part en cours de route, car il tenait quelque chose de fumant enveloppé dans du papier.
« Vous aussi ?» commenta Kaladin sur un ton plaintif.
« C'est bon, » répliqua Sigzil sur la défensive, avant de prendre une bouchée de chouta.
« Vous ne savez même pas ce que c'est ?»«
Bien sûr que si !» Sigzil hésita. « Dis, Lopen, qu'est-ce qu'il y a au juste dans ce truc ?»«
De la flangria !»
répondit joyeusement Lopen, tandis que Rock courait vers le vendeur de rue pour s'acheter lui aussi de la chouta.
« C'est-à-dire ?»«
De la viande !»«
Quel genre de viande ?»«
Le genre viandeux !»«
Spiricanté !» déclara Kaladin en se tournant vers Sigzil.
« Quand vous étiez un homme de pont, vous mangiez de la viande spiricantée tous les soirs ?»«
Parce que je n'avais pas le choix. Regardez, il fait frire ce pain. »«
La flangria aussi, on la fait frire !» répondit Lopen. « On forme des boulettes mélangées à du lavis en poudre. On les recouvre de chapelure et on les fait frire. Ensuite, on les fourre dans du pain frit et on verse de la sauce dessus. »
Il émit un bruit de contentement en se léchant les babines.
« C'est moins cher que l'eau !»
commenta Pete tandis que Rock revenait au petit trot.
Sans doute parce que même les graines sont spiricantées, commenta Kaladin. L'ensemble doit avoir un goût de moisi.
Rock, vous me décevez. Le manche-corne prit un air penaud, mais goûta une bouchée malgré tout. Sa chouta croquait sous la dent.
De la carapace? Demanda Kaladin.
Des pinces de crémillon. Rock sourit. Frites.
Kaladin soupira, mais ils se remirent en marche à travers la foule et finirent par atteindre un bâtiment en bois bâti du côté sous le vent d'un édifice de pierre plus grand. Tout y était disposé de sorte qu'un maximum de portes soit orienté dans le sens inverse à celui de l'origine. Les rues conçues de manière à pouvoir aller d'est en ouest et fournir un passage où les vents puissent souffler.